Salut à tous, c'est Max. It Était une fois 2 est sorti il n'y a pas si longtemps que ça sur Disney+. Donc ce mois-ci, on va vous faire un mois spécial It Était une fois avec aujourd'hui le premier podcast qu'on a enregistré au mois de septembre et dans 15 jours le second podcast sur le deuxième film qu'on a enregistré il y a à peine 3 semaines. Bonne écoute à tous!
Salut à tous et bienvenue dans la Disney's Music Box. Salut Max, comment vas-tu?
Ça va très bien, et toi Alex?
Pourquoi tu parles en belge d'un coup?
Je sais pas, c'est mon accent du Nord qui est revenu et il est parti sur le belge. Je suis en train d'écouter le podcast sur Plopsaland, celui que j'ai enregistré avec Curien et j'ai monté. Donc je suis en train de me réécouter en ce moment dans la voiture. Donc j'ai mon accent belge qui revient de temps en temps comme ça, une fois. Oh putain, j'ai dit une fois, pardon.
Ça commence très vite.
La Disney Music Box fait partie du label et la bête avec Rien d'y penser, Flan Secret Disney et puis le petit dernier qui est arrivé, Musicland. Le mec qui s'occupe de ça est super génial, je le connais, il est cool. Et puis vous pouvez en fait nous soutenir sur Patreon. Et pour ça, en fait, on va vous remercier, vous les Patreons. Alex, tu fais le chant ou
Ok,
c'est parti.
Merci
Marie.
Merci
Valaré et Valarette.
Merci
Greg.
Merci
Victor.
Merci
Canoir.
Merci
Pierre.
Merci
Damien.
Merci.
Ainsi que Jérôme.
Merci
Mirana.
Merci
Samuel. Et puis enfin, merci aux derniers arrivants, Alice et Bibou, qui vont être futurs parents.
Magnifique. Et donc, aujourd'hui, on va vous parler d'Il était une fois Enchanted.
Comment sait-elle que tu l'aimes?
Lui montres-tu que tu l'aimes?
Est-ce que tu peux lui parler et lui dire
que tu l'aimes? À quoi sait-elle que tu l'aimes? Lui montres-tu que tu l'aimes? Est-ce que tu sais lui parler et lui dire que tu l'aimes?
Il était une fois, ou Enchanted en anglais, film Walt Disney Pictures sorti en 2007 et réalisé par Kevin Lima. Kevin Lima, il a entre autres réalisé Dingo et Max, Tarzan ou Les 102 Dalmatiens. C'est Lisa Kim qui gère la partie animation, qui est une habituée à travailler sur la supervision des décors de nombreux Disney, par exemple Taram et le Chaudron Magique, La Petite Sirène, Le Bossu de Notre-Dame ou Hercule. Le film, lui, est écrit et scénarisé par Bill Kelly, un illustre inconnu qui a scénarisé deux autres films seulement. Les films en question, c'est Première Sortie, où un homme découvre le monde après avoir passé 35 ans dans un abri anti-atomique, et Prémonition, où une femme apprend que son mari est mort d'un accident de voiture, mais il est bien vivant quand elle se réveille, du coup, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc on est d'accord que ça n'a rien à voir avec Il était une fois.
Oui.
Le scénario original a été acheté en 97, et réécrit pendant 3 ans, mais il était trop mature pour Disney. Tant et si bien qu'à la base, Giselle devait être prise pour une stripteaseuse à son arrivée à New York. C'est assez limite.
Ça aurait été mieux?
Alors, je suis pas sûr.
D'accord.
Je suis pas sûr.
On va arrêter les... On va arrêter les hallucinations, hein.
Le scénario a été réécrit donc plusieurs fois. De nombreux réalisateurs sont passés sur le projet. On a Rob Marshall, c'est Chicago, Mémoire d'une Geisha, Into the Woods, etc.
On Into a aussi... the Woods, il faut absolument faire un podcast sur Into the Woods.
Oui, avec grand plaisir. Là, on va bien parler que
l'année
musique,
prochaine.
L'année prochaine.
Tarzan, Into the Woods.
Ouais. On a aussi John Turtletaube, donc qui a fait Phénomène, Benjamin Gates, etc., etc. Et aussi Adam Shankman, qui avait fait Un mariage trop parfait, Hairspray, Rock of Ages, et c'est d'ailleurs lui qui va réaliser la suite d'Il était une fois, en anglais Disenchanted, j'ai oublié ce que c'était le nom français.
Il était une fois deux.
Voilà, c'est vraiment nul.
Oui, ça aurait pu être deux fois, ou je sais pas, il n'est plus une fois, tu vois, vu que c'est Disenchanted, et non, il était une fois deux.
C'est en 2005 que Kevin Lima devient le réalisateur final, changeant le scénario avec Bill Kelly pour y introduire un hommage au film d'animation Disney. Et attention, j'ai bien dit hommage, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont comparé Enchanted avec Shrek, sauf que Shrek, ils descendent Disney, Enchanted, c'est un hommage à Disney, quoi.
Je sais pas à quel point Enchanted, c'est un hommage ou l'autodérision. Parce que Shrek, oui, on est d'accord, c'est du bon gros foutage de gueule, c'est plus que la dérision. Mais c'est l'autodérision, c'est, je sais pas. Il y a un peu les deux.
C'est à la fois de l'autodérision et de l'hommage, enfin, c'est une autodérision gentille. Ils descendent pas les films, quoi. Enchanted se concentre sur l'archétype de la future princesse Disney se retrouvant projetée dans la réalité.
Archétype.
Archétype ? Ok, archétype. Je recommence. J'aimais bien ce mot, tu vois, je me suis dit, je vais le mettre.
C'est l'archétype.
Enchanted.
Vas-y, recommence, hein, je couperai au montage, t'inquiète pas.
C'est
hein. Non.
Enchanted se concentre sur l'archétype de la future princesse Disney qui se retrouve projetée dans la réalité, très idéalisée bien entendu, de la ville de New York. C'est le premier long métrage Disney mélangeant animation et prise de vue réelle depuis Qui veut la peau de Roger Rabbit en 98, même si on est d'accord que les deux n'interagissent pas ensemble. Le tournage des prises de vue réelles dura 72 jours.
De temps en temps, je te reprends juste, de temps en temps, il y a un petit mélange d'animation. En fait, lorsque parfois la reine se pointe, c'est les seuls moments où l'animation intervient dans le...
Alors, elle intervient, mais il n'y a pas de vrai...
Elle n'a pas d'incidence.
Voilà, il n'y a pas de
deux personnages qui conversent vraiment c'est et qui bougent des objets, des trucs comme ça, comme sur Roger Rabbit, par exemple.
C'est en ça que je disais qu'ils n'interagissaient pas ensemble vraiment. Le tournage des prises de vue réelles dura 72 jours, tandis que les 13 minutes d'animation ont pris une année à être réalisées. Celles-ci n'ont pas été créées par un studio Disney, mais par le studio James Baxter Animation. Et en fait, Baxter était un ancien de chez Disney. Il a travaillé sur l'animation de Belle, l'animation de Rafiki, de Quasimodo, sur Spirit, et sur Shrek 2, Madagascar ou Kung Fu Panda. Donc c'est assez
Baxter,
marrant.
Je connais aussi.
C'est l'autre.
Ouais, c'est mon copain. Moi.
C'est ton copain, t'as pris une photo avec.
J'ai mis ma photo là-bas avec Tony Baxter. Elle est accrochée dans mon décor.
Filmé à New York, c'est galère. À Times Square, il y avait une foule qui avait tendance à s'attarder. Et je sais pas si vous vous souvenez du morceau Comment savoir, que je chantais dans les Merci, a pris 17 jours à être tourné dans Central Park. Le chorégraphe d'ailleurs de ce morceau-là, c'est John O'Connell, qui est le chorégraphe du film Moulin Rouge que je vous conseille fortement de regarder. Il y a de très nombreuses références à des films Disney, bien sûr, qui sont disséminées dans le film. On a Blanche-Neige avec ses pommes, la vieille femme, la maison, le nettoyage, tout ça. On a Cendrillon et son soulier, bien sûr, aussi le nom de Tremaine, Nancy Tremaine. On a la bonne fée carte de crédit, et voilà. On a le restaurant de la Belle et le Clochard, le Bel Annoté. On a la petite sirène avec l'épisode de la barque, puis aussi la musique quand Gisèle regarde l'aquarium.
Et à ce moment-là, c'est Jodie Benson, l'actrice secrétaire de Patrick Dempsey. Son nom dans le personnage, dans le film, je ne sais plus. J'ai du mal avec.
Je le dirai tout à l'heure, t'inquiète pas.
Donc la secrétaire ou l'assistante de Patrick Dempsey, en fait, c'est Jodie Benson qui est la voix américaine de
Ariel.
De Ariel.
Exactement. Ça, je l'ai mis plus tard, tu vois.
Pardon, excuse-moi.
T'inquiète pas. On a aussi La Belle au bois dormant, avec la transformation en dragon, La Belle et la Bête, Le bossu Notre-Dame, Basile détective privé, Cusco. Ça, je vous laisserai chercher un petit peu tout ça, c'est très marrant. Et on a aussi les actrices de Pocahontas, quand la personne dit « Vous avez trop tard » au prince Edward. On a Belle, on a Paige O'Hara, quand le prince regarde la télé, et d'ailleurs son personnage s'appelle Madame Pott.
J'ai oublié, Madame Pott, c'est qui Madame Pott dans La Belle et la Bête?
Bah, la théière.
Ah oui, oui, Madame Savoir. Team VF.
Eh, oh, hein. Les musiques sont composées par Alan Menken, qu'on ne présente plus vraiment, hein. La Petite Sirène, Belle et la Bête, Aladdin, Pocahontas, a priori le meilleur pour Monsieur Max, Hercule, oui. Newsies. Et les paroles de Stephen Schwartz, qui a fait les comédies musicales Godspell, Pipin, Wicked, et aussi Pocahontas, Le Bossu Notre-Dame, Prince d'Égypte, etc.
N'oublie pas le Quiz à la Menken.
Quiz à la Menken, vous allez être calé à la fin, ne vous inquiétez pas pour ça. Au niveau des orchestrations, Max en parlera certainement, mais on a Danny Troube, qui avait fait La Belle et la Bête, Aladdin, Pocahontas.
C'est le meilleur collaborateur de Ray Mankin.
On a aussi Kevin Clich, qui a fait l'orchestration de Taxi, Kung Fu Panda, Réponse et Frozen. Nous avons aussi le dernier, Black Neely, qui avait fait les musiques additionnelles de Pirates of the Caribbean et les arrangements de Da Vinci Code, entre autres. Donc, Alan Menken et Stephen Schwartz trouvaient ça très simple d'inclure du chant dans Enchanted par rapport aux autres films qu'ils ont déjà fait, parce que là, les personnages étaient tellement barrés que c'était permis d'intégrer des chansons directement dans l'histoire comme une vraie comédie musicale. Il y a eu 6 chansons composées, 5 retenues. La musique supprimée, c'est Enchanted, qui devait être entre Idina Menzel et James Marsden, donc Nancy Tremaine et le Prince Edward. C'est le premier film sorti sous le nom de Walt Disney Studios Motion Pictures, avant c'était Buena Vista Pictures Distribution. Ils ont eu 93% sur Rotten Tomatoes, ce qui est quand même pas mal du tout, et une très bonne réception critique, et c'est le 15e meilleur succès de l'année 2007, sachant que c'est sorti vers novembre. C'est quand même pas mal, en deux mois, d'être le 15e meilleur. Au niveau des nominations, ils ont été sacrés meilleur film familial aux Critics' Choice Movie Awards et nominés pour les meilleures chansons aux Oscars sans en avoir gagné.
Dommage.
Et nous passons maintenant à l'histoire.
Le savon, après les chaussettes et les vieux caleçons, gentiment, il suffit de chanter simplement, c'est si bon de travailler bien en chantant. On s'est bien amusé, n'est-ce pas?
Au royaume magique d'Andalasia, Gisèle vit dans un monde de dessins animés et de musique où elle ne tarde pas à rencontrer le prince Edward, conquis par sa voix alors qu'il chante exactement le même morceau. C'est fou. Ils tombent amoureux l'un de l'autre et décident de se marier car, c'est bien connu, on se marie toujours sur un coup de tête. Mais la méchante reine Narissa, belle-mère d'Edward, veut se débarrasser d'elle afin de garder son trône. Le lendemain, le jour du mariage, Gisèle est poussée par une vieille femme dans un puits à vœux. La vieille femme n'est autre que la reine. Gisèle atterrit dans le monde réel, à Manhattan, où elle devient une femme en chair et en os. Elle se rend compte que ce monde manque cruellement de magie et d'enchantement. Alors qu'elle cherche de l'aide, elle finit par rencontrer Dr. Derek Shepherd, Robert Phillip, un avocat spécialiste des divorces.
Le pire dernier, que je fais aussi, hein. Quand je regarde à chaque fois ce film, je suis ou quand j'ai rien Grey's Anatomy, enfin quand j'ai pas le choix de Grey's Anatomy, je suis machin, et puis il fait ça avec Gisèle, et puis il fait ça aussi avec Meredith Grey. Machin, ouais.
Ce dernier est père d'une petite fille, Morgan, et a une petite amie, Elphaba. Non, pardon, Nancy Tremaine.
Robert... Elphaba, j'ai pas la ref.
Elphaba, c'est dans Wicked.
Pardon.
Ah bah non. Bah non. Parce qu'en fait, l'actrice qui joue Nancy Tremaine et Idina Menzel, donc, est surtout connue pour avoir joué Elphaba.
T'aurais pu marquer Elsa.
Oui, mais elle avait pas encore fait Elsa. Hein?
Oh putain.
Tu veux que je la fasse en version Elsa? Attends, deux secondes. Ce dernier est père d'une petite fille, Morgan, et a une petite amie, Elsa. Non, Elphaba. Non, Nancy Tremaine, pardon, excusez-moi. Robert pense que Gisèle est totalement starbée, mais comme elle est canon, il la laisse dormir chez lui. Le lendemain, elle fait le ménage avec des rats, des pigeons et des cafards alors qu'elle chante, et s'ensuit tout un quiproquo puisque Nancy surprend Robert, allongé par terre avec Gisèle seulement recouverte d'une serviette sur elle, sachant qu'en plus il a jamais laissé Nancy dormir chez lui, voilà. Peu de temps après, Edward, suivi de son serviteur, Nathanael, et de Pip, bon lui j'ai personne pour le remplacer, débarque à Manhattan. Le premier est là pour récupérer sa dulcinée. Le second, sous la coupe de Narissa, doit faire en sorte qu'il ne se retrouve pas. Et enfin, l'animal, il tente juste de l'empêcher pendant je ne sais combien de temps, et c'est juste le truc un petit peu humoristique de la chose. C'est un petit peu le Timon, j'aurais dû dire, et de Timon, non, Pip,
oui,
mais bon.
Le Timon, le Olaf.
Voilà, c'est un petit peu le truc drôle. Pendant ce temps-là, Gisèle et Robert font une super impro avec tout le monde présent à Central Park. C'est fou. Gisèle ne tarde pas à tomber amoureuse de Robert, tout en étant fiancée au prince des contes de fées, alors que Robert tombe amoureux de Gisèle, tout en étant avec Nancy. Mais au final, la méchante reine arrive à New York, au moment d'un bal des rois et des reines. Tout le monde danse autour de Robert et Gisèle. Comme par hasard, il y a même une super lumière qui les suit. Gisèle croque la pomme. La pomme donnée par la méchante reine déguisée en vieille, hein, bien sûr. Et du coup, pouf, elle tombe dans les pommes. Enfin, pas les vraies pommes, elle tombe par terre. Le prince Edward l'embrasse, mais avec beaucoup trop d'entrain, c'est à la limite du panette, on est d'accord. Robert arrive à la rescousse. Nancy, elle est deg. La reine, elle est deg. Le prince, il est content, c'est bizarre. La reine se transforme en maléfique. S'ensuit un moment King Kongesque, et finalement le dragon, bah c'est un petit peu con, mais il s'est pas volé, c'est vachement con pour un dragon. Et du coup, elle meurt. Finalement, Gisèle et Robert sont ensemble. Le prince Edward et Nancy sont ensemble. Pip et Nathaniel sont ensemble. Non, non, eux, ils écrivent juste des livres à succès et tout est bien, qui finit bien.
On peut quand même faire un petit point. Il s'appelle Robert et puis il s'appelle Gisèle.
Alors, ma grand-mère s'appelait Gisèle.
Ton grand-père Robert, non, voilà, tu vois.
Non, non,
mon grand-père,
ça marche pas.
Mon grand-père s'appelait Robert, ta grand-mère s'appelait Gisèle.
Excellent.
Ce que fait le prince Edward, hein, c'est de la nécrophilie.
Ah bah, clair, bah oui, bah... Robert aussi, il y a un moment...
Oui, c'est vrai.
C'est limite, hein, on est d'accord. Et nous allons enfin parler du plat de résistance, j'ai nommé la musique. Musique. Mon cher Max, c'est à toi.
La musique, donc la musique, comme tu disais Alex, la musique a été composée par Alan Menken, le fameux Alan Menken, celui qu'on ne présente plus. Donc qui dit Alan Menken dit bien sûr un mélodie, leitmotiv, avec des paroles de Stephen Schwartz, donc comme tu disais, un peu sur Notre-Dame, Pocahontas, il a fait aussi plein d'autres choses, le prince d'Égypte par exemple. Le saviez-vous, il devait être aussi parolier pour Mulan, mais il a fait le prince d'Égypte et ça a posé des problèmes à Disney. Mais ça, vous le savez, si vous avez écouté le bon podcast et regardé le bon live il y a 3 semaines. J'ai fait un truc très bien pour le podcast, j'ai fait un clin d'œil.
Très bien.
Et la musique a été supervisée par Drone Solaire. Et avec bien sûr une orchestration principalement par Danny Troube, le grand orchestrateur d'Alan Menken, celui qu'on ne cite plus, qui a fait La Belle et la Bête, qui a fait Pocahontas, et c'est lui qui a fait surtout la super séquence de la danse du royaume dans Réponse. Il y a donc 5 chansons, 4 sont des leitmotifs, une n'est pas un leitmotif, ou alors c'est un pseudo-leitmotif, son instrumental est réutilisé durant le film, et il y a un leitmotif en plus qui n'est pas une chanson. Donc en tout, 5 chansons, 5 leitmotifs, et une moitié de leitmotifs. La première chanson s'appelle Un baiser, ou True Love Kiss. J'aime bien le mot true, tu vois, c'est la dernière fois, le dernier live, j'ai dit true aussi, là, je sais
c'est
plus
bien,
comment
tu
le dis.
De mieux en mieux, c'est bien, tu t'améliores, ouais.
True Love Kiss.
Dommage.
Qui est la chanson I Wish. La I Wish Song de du film.
Mais c'est quoi une I Wish Song?
C'est quoi une I Wish Song? C'est la chanson, c'est une chanson où le héros principal, en fait, il exprime ses sentiments. Il exprime ses vœux, ses désirs. Mm-hmm. La I Wish, quoi, je souhaite. Et donc là, ce qu'elle souhaite, c'est trouver le grand amour. Et puis le prince aussi souhaite trouver le grand amour. Et puis heureusement, au bout de 5 minutes de film, ils se sont trouvés. Donc en fait, la I Wish Song n'a plus d'intérêt au bout de 5 minutes de film. Mais pas tant que ça, en fait. Pas tant que ça. Parce qu'au final, c'est l'amour du point de vue, ce leitmotiv, c'est l'amour du point de vue d'Andalasia. C'est un peu l'amour utopique. Elle est amoureuse, elle fait sa chanson, il est amoureux, il continue la chanson, et ils se retrouvent, ils finissent la chanson. Et en fait, ce leitmotiv revient tout au cours du film, même lorsque Gisèle est à New York. Ce sera un petit peu le thème dans le dessin animé. Il y a 2 univers, dessin animé, film. Le thème dans le dessin animé. C'est un grand élan musical avec une petite introduction. J'en parle souvent. Il y a ce système dans les opéras avec le système de récitatif R. Le récitatif, c'est là parce que l'action avance, on installe ce qu'on veut raconter et puis en même temps, il y a très très peu de paroles. Il y a beaucoup de paroles, pardon, et très très peu de musique. On a une introduction dans cette chanson un peu comme ça. Et en fait, tout ce début, il tourne autour des mêmes notes, hein, toujours, c'est une grande ligne droite, on comprend facilement ce que ça raconte. Et puis d'un coup, en fait, on arrive sur l'air. L'air dans l'opéra, c'est le moment où là, on exprime les sentiments, mais là, l'histoire n'avance plus. Et ben à ce moment-là, en fait, c'est un grand élan musical avec une grande octave qui s'élance. Hein. Et ça, c'est une octave et ça fait... En fait, on exprime d'un coup le sentiment. On fait un grand élan. On s'exalte. Ce qui fait que... Puis on arrive sur un truc vraiment qui tire, qui est élan, glorieux, majestueux. Hein. Je tourne la page. Et là, attention, petit moment un peu tragique, parce qu'elle se rappelle qu'elle est un petit peu toute seule et puis qu'elle est triste et qu'elle est... C'est pas vraiment... True Love Kiss me fait beaucoup penser au I Wish des années 50.
Ah oui, le Wish, je connais ça.
Entre 40, c'est un bateau aussi. 30, 40, 50. Et cette version-là, enfin, cette chanson me fait particulièrement penser à A Dream is a Wish Your Heart Makes. Tendre rêve en français de Cendrillon. C'est la même chose. Hein. Elle exprime ses sentiments, elle exprime ses vœux, et puis d'un coup, il y a un passage à trois temps dans une valse. Et...
Un baiser pour un amour sincère et un prince.
Le prince est très long.
Et c'est strictement la même coupure que dans cette chanson là. Ça fait vraiment
A dream is a wish your heart makes.
C'est la chanson finale de Illumination. Et donc c'est la même, c'est vraiment la même construction, hein. La partie lente, la partie de l'amour, la partie de la valse avec le rêve, la danse avec le prince, la rencontre, et la redescendre sur terre avec la partie lente, le passage soudain à quatre temps. Au niveau du visuel, il y a même une référence à Cendrillon. Gisèle recrée le prince avec un mannequin, des vêtements, des trucs comme ça, comme Cendrillon recrée son costume pour le bal avec son mannequin. Happy Working Song est donc la chanson suivante. Il paraîtrait que c'est un hommage au frère Sherman, c'est Alex qui m'a dit ça en sourçant Wikipédia.
Et oui, et a priori, en fait, c'est une petite mélodie, un hommage musical au frère Sherman avec... une auto-parodie d'Alan Menken, du style Alan Menken.
En tout cas, moi, des références à Menken, j'en ai, enfin, Menken qui sont aussi, là-dedans, j'en ai trouvé une. Alors, j'ai trouvé aussi que la chanson s'inspirait beaucoup de Siffler en travaillant, une déclamation syllabique, c'était rapide. Et en fait, c'est le thème des animaux. Dès qu'il y a des animaux, on voit ça. Parce que c'est vrai que c'est le moment où elle nettoie la maison, elle demande aux animaux de venir. Dès qu'on voit Split, on entend aussi ce thème de Happy Working Song. J'ai fait ça assez bien vite fait, vous voyez. Quand je pose pas mes partitions, ça marche mieux. Et la référence
La référence que j'ai trouvée, moi, à Alan Menken dans cette chanson, c'est cette partie très, très rapide, donc qui fait penser, moi, à siffler en travaillant, d'un coup, en fait, est cassée par un moment où Gisèle rebalance un petit peu ses sentiments. D'un coup, c'est beaucoup plus lent. C'est le retour d'une partie I Want comme Belle dans la Belle et la Bête, dans la chanson Belle, où Belle exprime son village, bonjour, bonjour, machin, et puis d'un coup, c'est le plus beau des romans.
C'est totalement ça.
C'est la même chose, c'est la même...
Et d'ailleurs, il y a même l'orchestrateur, enfin, il y a Danny Troub qui a dit que le pont, justement, ce que tu viens de dire, est directement basé sur le pont de Belle.
Ben voilà. Et ça, par contre, je ne l'avais pas vu, tu vois.
C'est sûr.
Donc, les grands esprits se rencontrent.
Se racontent, ils se racontent beaucoup.
Bah oui, on se raconte aussi. Hein.
Et j'ai aussi, parler des similarités avec... j'ai oublié le nom français de celle-là. Something There.
C'est le plus beau des romans.
Exactement.
Il y a quelque chose dans son regard. Si vous voulez en savoir plus sur les chansons de La Belle et la Bête,
il faut écouter le podcast de La Belle et la Bête.
Je pense même que si on cherche humain à nouveau, on pourrait peut-être même retrouver le même style de construction. On a un peu la même chose aussi dans Mine, dans Pocahontas. Donc ça, c'est comme je dis, c'est le deuxième leitmotiv. Hein, c'est le leitmotiv des animaux. Troisième... chanson, celle qu'Alex a chantée tout à l'heure. Celle-ci, par contre, je vais... Là, il va y en avoir du putain. Ça, c'est... En fait, cette chanson, il y a deux leitmotivs dans cette chanson. Il y a deux parties. Ça, c'est la première partie. C'est le moment, en fait, où dès que... Dès que Robert en fait, se remet en question sur sa façon de voir l'amour, ou plutôt dès que Gisèle remet en question la façon de voir l'amour de Robert, Robert qui, pour remettre en contexte, tu as peut-être redit Alex dans l'histoire, Robert en fait qui s'est fait quitter, il s'est fait larguer comme un mal propre, qui le vit très très mal, en fait, dès qu'il faut parler d'amour, ou la conception de l'amour de la part de Gisèle, qui est vraiment très ridicule, hein, on épouse quelqu'un le lendemain qu'on le rencontre, et puis tout est beau, tout est bien, il faut rester dans un dessin animé. Il y a vraiment une grosse opposition par rapport à ça, donc dès que Robert en fait dit que non c'est ridicule, il y a Gisèle qui va essayer de le remettre un petit peu en place, qui va essayer de le faire changer d'avis, et on entend ce leitmotiv à chaque fois. Ou alors deuxième leitmotiv qu'on entend. Et... on entend ça à chaque fois. C'est dans un style calypso qui ressemble beaucoup, énormément, à Embrasse-la ainsi qu'à Sous l'océan.
Ah, c'est totalement les inspirations de
cette
chanson. Hein,
c'est les mêmes inspirations. De toute façon, à partir du moment où on prend un style calypso, on va automatiquement ressembler à Sous l'océan. Et même si là, on a un peu plus poussé. De toute façon, on sent vraiment que Daniel Troub, au niveau de l'orchestration, il s'est vraiment fait plaisir. Quoi. Il a mis les solistes, il a tout mis. Et puis, c'est aussi un grand tableau de comédie musicale tel qu'on les aime. Et vraiment cher à Alan Menken, hein, c'est dans La Belle et la Bête.
Ça serait...
dans La Belle et la Bête, ça serait C'est la fête. Dans Bossu Notre-Dame, ça serait Charivari. Dans Aladdin, ça serait Prince Ali, par exemple. Et c'est en fait ces grands moments là donc où est-ce qu'ils sont dans pardon ces grands moments là où est-ce qu'ils sont dans Central Park en train de danser en train de faire la fête.
Et en fait Menken l'a dit lui-même que c'est une auto-parodie de ses travaux précédents de... Et d'ailleurs
je trouve ça exceptionnel de s'auto-parodier parce que j'imagine bien vraiment le mec qui se dit je me suis parodié, donc de la parodie vraiment dans le sens j'ai fait de l'auto-dérision, alors qu'au final c'est vachement bien fait. Et la parodie là-dedans, une parodie il aurait rajouté un peu plus de clichés, un peu plus caricatural, ça aurait fait vraiment enfantin. Là c'est plus, ça a dépassé ce qu'il a pu faire auparavant.
Oui, totalement. Et Schwarz, pour le coup, il a dit que lui il avait un petit peu galéré parce que pour lui, dans les films Disney, Il a toujours trouvé une petite ironie dans les paroles et il a essayé d'aller chercher ça un petit peu, justement.
Autre leitmotiv. Non, je vais faire celui des méchants avant. Parce que là, j'en ai fait trois sur... Enfin, j'ai fait l'évolution de l'amour au niveau des leitmotifs. Et l'amour, après, il se conclut par un autre point. Mais juste avant, je vais faire celui des méchants. Celui des méchants qui n'a pas de chanson. C'est celui qu'on entend dès qu'on voit Narissa. Dès que Narissa veut faire quelque chose de mauvais. Et il est incroyable. C'est qu'en fait, il est tellement orchestré de manière légère qu'il est pas si, il fait pas si peur. Pourtant, quand on le décortique, ça fait peur. Et ce leitmotiv-là, en fait, c'est celui de Narissa, c'est celui des méchants. Très grave, en mineur. Si bémol mineur, mi bémol majeur. Mi bémol mineur. Avec un do tout bémol. Il est vraiment très, il fait vraiment très très peur. Ouh, j'ai peur. Je finis par le dernier leitmotiv. C'est plutôt celui de l'amour, mais du point de vue de New York, du point de vue des, du point de vue du monde réel et loin des humains. C'est celui en fait qu'on entend. C'est aussi un peu le passage. Ce leitmotiv, c'est dès que Robert exprime ses sentiments pour Gisèle, ou inversement, c'est plus souvent Robert vers Gisèle que Gisèle vers Robert, dès qu'il y a l'expression d'un amour réciproque qui est sous-entendu, on entend le thème de la chanson « Si près ».« So close
okay. ».«
Si près », aucun lien avec l'arbre. Principalement, c'est cette partie-là qui font. C'est un temps. C'est vraiment cette partie-là qu'on entend principalement dans la musique instrumentale. C'est deux petites tierces qui sont des retards. Et les retards, ça fait toujours bien. Ça fait tirer les émotions. C'est par rapport à cette chanson-là. Cette chanson-là a été chantée en anglais par John McLaughlin.
Oui.
Qui est un chanteur et musicien américain. Et en français par le doubleur Pascal Lafarge.
Ah oui, je connais David avec Pokémon, ouais.
Je voulais la faire, putain.
Ah, désolé, trop rapide. D'ailleurs, il faut savoir une chose, c'est que de base, donc Schwarz et Sondheim... Sondheim.
Mencken ?
Schwarz, on va y arriver un jour, hein, on se gourde dans les noms aujourd'hui. Mencken et Schwarz, en fait, ils ont écrit une première version. Ils l'ont envoyé au producteur de musique Robbie Buchanan. C'est lui qui a, entre autres, produit et arrangé A Whole New World. J'ai oublié le nom français. Pourquoi j'oublie toujours les noms français ? Ce rêve bleu.
Ce rêve bleu.
Aussi Closer of the Wind dans Pocahontas.
Ouais, l'air du vent.
Donc c'est lui qui avait produit ces deux-là, et il voulait justement retrouver un petit peu cette patte qu'il y avait dans ces deux morceaux-là. Donc ils ont envoyé une démo à Buchanan, qu'il leur a renvoyé, etc. Ensuite il y a eu les orchestrations et tout, et tout, et tout. Et aussi, ils ont utilisé la version de Buchanan pour orchestrer le moment de la chanson où il y a ce moment où il danse.
Ah, avec le corps.
Exactement.
Le meilleur moment. Meilleur moment de la musique. Du point de vue instrumental, tu parles de musique instrumentale, du point de vue de la musique instrumentale, Danny Troube, en fait, il a fait vraiment une orchestration qui peut être soit très légère, hein, très enfantine, ou très dessin animé, tel qu'on peut les avoir dans, par exemple, Aladdin, principalement, La Petite Sirène ou Aladdin. Attention, il n'a pas travaillé sur La Petite Sirène. Et c'est J.C. Redford qui a fait les orchestrations de La Petite Sirène. J.C. Redford qui a fait aussi la musique de Oliver et compagnie. Et parfois, en fait, ça peut être vraiment très très léger,
principalement sur les moments où Gisèle fait des trucs un peu nunuche, cruche, de princesse Disney, enfin de caricature de princesse Disney des années 40-50. Et parfois, ça peut être vraiment aussi très très sérieux et très très grave. Par exemple, quand tu vois l'orchestration de Cyprès, c'est peut-être pas lui qui a fait cette orchestration-là, mais quand tu vois l'orchestration de Cyprès, c'est quand même incroyable. La séquence finale qui dure 10 minutes sur la piste album, vraiment, elle est exceptionnelle. Il n'y a même pas les mots pour saluer le travail de Danny Troupe dessus. Il y a aussi énormément de figuralisme. C'est incroyable le nombre de figuralisme qu'il y a, puis de Mickey Mousing. Hein, Mickey Mousing, oui. un geste à l'image, un son à la musique. Il y a beaucoup de ça aussi, qui fait donc Mickey Mousing, principalement référence à Blanche-Neige, Pinocchio, par la suite aussi Cendrillon, Peter Pan. Mickey Mousing était principalement utilisé dans les six symphonies, dans les courts-métrages de Mickey, et aussi durant les films du premier âge d'or. Le second âge d'or fait moins part au figuralisme, on est plus dans les leitmotifs que dans le figuralisme sur le second âge d'or. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à la musique. J'ai fait beaucoup plus court que d'habitude, mais en même temps, il n'y avait pas grand-chose à dire sur les thèmes de la musique, mais sur les leitmotifs. Mais par contre, leur traitement vraiment dans le film est incroyable. Hein. Mencken a encore fait du grand Mencken sur ce film. C'est du grand Mencken comme j'aimerais en retrouver beaucoup maintenant.
Mais moi, c'est aussi l'orchestration est assez incroyable.
Enfin, qu'on voit comment savoir.
Oui.
C'est exceptionnel. La progression orchestrale, narrative orchestrale, la richesse des couleurs d'instruments. S'il y a bien une piste de l'album que vous devez absolument écouter, c'est celle de Enchanted Suite.
Ah oui, elle est magnifique.
La suite qui résume toutes les chansons et les leitmotifs du film. Hein. C'est une suite à la... Enfin, si c'est Danny Troupe qui l'a orchestré, on sent vraiment qu'il s'est fait un plaisir là-dessus, un malin plaisir là-dessus. J'aime, Mencken a bien construit sa suite, et alors là, l'orchestration est encore plus impressionnante. Vraiment une orchestration à la Mulan. À la Mulan, la suite de Mulan, pareil qu'on parlait durant le dernier podcast. Je prends aussi l'exemple des génériques de fin. Les génériques de fin de Jackie No dans tous ses films, où est-ce qu'il fait un résumé de ses leitmotifs, c'est vraiment du même acabit. Oui, j'ai balancé le mot acabit.
T'as parlé de Ever Ever After un petit peu ou pas?
Il me manquait une chanson. Alors, j'ai une chanson que j'ai pas évoquée, c'est Ever Ever After, qui est en fait la générique de toute fin du film. C'est ça, en fait, ma moitié de leitmotiv. Ever Ever After, en fait, c'est la vie dans la vraie vie. C'est le moment où Morgane, la petite fille, elle va avec Gisèle faire les magasins. En fait, c'est le moment où Gisèle découvre ce que c'est que la vraie vie. Pouvoir sortir, voir des gens, s'amuser, dépenser de l'argent, la fameuse carte bleue. Marraine la carte bleue. Oui, et c'est là que j'allais revenir. En fait, c'est pour ça que je considère ça comme une moitié de leitmotiv. Et c'est qu'en fait, l'instrumental est présente dans cette scène de shopping, dans Girls Gone Shopping. Et on entend que ça. Ça sera la musique de fin, en fait, du feu d'artifice à Disneyland Paris aussi. Et c'est vraiment, en fait, la même chanson. Donc, la chanson, on la voit à la fin où est-ce que Gisèle devient créatrice de mode pour la chaîne de vêtements Andalasia. Je trouve ça très drôle.
Super,
la meuf, ça fait 15 jours qu'elle est sur Terre. Elle a déjà une chaîne de boutiques. Bref, elle a déjà une chaîne de vêtements, c'est incroyable. Et c'est à ce moment-là aussi, ça casse vraiment le rythme. Parce qu'en fait, c'est vraiment... tout le film est une grande caricature des trucs Disney, les mondes un peu utopiques, les évolutions, tout ça. Même la chanson Cyprès, elle n'est pas si près de la vraie vie, si je peux dire. Et puis d'un coup, en fait, il y a une chanson qui est pop, avec une batterie, tout ce qu'il faut, et puis qui s'amuse bien. C'est le genre de chanson pop que je suis pas extrêmement fan dans les films Disney. C'est vrai, un peu comme True to Your Heart dans Mulan, ou comme Columbia Encanto dans Encanto. Mais celle-ci, en fait, elle passe vraiment bien. Il y a un côté un peu feel good qui est rassurant. Et puis, elle n'est pas omniprésente. C'est pas une chanson qu'on veut t'imposer, te foutre dans la tronche. Et puis, c'est une chanson de fin. C'est une chanson qui... c'est pour bien finir, en fait. toute façon, quand on voit le style musical,
c'est une power ballade country avec des accents de country rock. Et selon Stephen Schwartz, c'est un numéro de pop contemporaine d'adulte.
Ah oui, quand même.
Ah ouais, c'est
vrai. Mais tu vois, je me souviens, quand tu m'as dit une balade rock country, je me suis avec mon chapeau prêt à... à taper des crampons. Et celle-ci, il y a aussi Vats Amore. Alors, sur la piste, sur l'album, il y a Vats Amore, qui est une chanson italienne qui serait utilisée dans le film. Je pense qu'en fait, c'est juste la musicale qui doit être utilisée dans le film au moment de la scène de la pizza. Mais oui. La partition est dans le recueil, la musique est dans l'album, mais il peut y avoir de grands... C'est plus anecdotique qu'autre chose. C'est vraiment en fait la chanson qui est là pour... On n'est plus dans la parodie, on est dans la vraie vie. On casse le rythme, mais on casse pas négativement, positivement plutôt. On casse toute l'idée du film, et puis d'un coup, en fait, ben oui, l'utopie est finie, et puis ben la vraie vie elle est comme ça, mais au final, elle est pas si mauvaise pour Gisèle. Elle prend le bon côté de la vie, si on peut dire.
Always look on the bright side of life.
Vats Amore est interprété par le beau gosse, donc par Edouard, je présume. Je veux dire ça pour ça.
Peut-être que c'est James Marsden qui est un beau gosse. Attends, je vais vérifier.
Mais je ne l'ai pas, en fait, dans le film du tout.
Ah bah oui, c'est le prince Edouard, effectivement.
Je ne l'ai pas. Dans le film, vraiment. Peut-être dans la piste album, c'est peut-être lui qui l'a fait. Je dis en plus, s'il le faut.
Ah mais je sais, mais voilà. Tout, je le connaissais.
Bah
c'était
ouais.
Cyclope dans X-Men. Putain.
Oui.
Mais oui, oh, t'as aucune culture.
Voilà où est-ce que je pouvais, moi, y aller, bah, dire des musiques de ce film.
Et c'est tout pour les musiques, mais il y a un petit débat. Est-ce que le débat, on le fait dans le et ailleurs ?
On peut le faire avant, je pense. On peut faire un tout petit coup de débat. Enfin, un débat. Plutôt une ouverture, une proposition. Quand j'ai regardé ce film, je crois que je l'ai même tweeté. Quand j'ai regardé ce film, en fait, je me suis fait la réflexion que c'était une... De toute façon, tu l'as dit, hein, ils l'ont pensé comme une comédie musicale. Eh bien, clairement, ils pourraient le faire sur scène. Il y a... Cinq lieux, il y a en fait la partie 6, il y a deux lieux dans la partie dessin animé, il y a l'appartement de Robert, il y a New York, Central Park, donc ça fait 5 lieux, la pizzeria, la scène finale, 7, et il y a 7 lieux. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de lieux, ça serait bien en fait qu'ils puissent le faire sur scène. Oui. Rajouter aussi d'autres chansons, mettre une chanson par exemple pour le couple qui veut divorcer, et ben au final il peut avoir une chanson, il peut faire d'autres chansons, je sais pas comment ça s'appelle, Nancy qui fait une chanson scandale parce qu'elle découvre Gisèle allongée sur son compagnon, des choses comme ça. Je me dis que ça serait vraiment une super idée, un moment incroyable.
Ça peut le faire, et même en fait tu peux l'arranger, t'es pas obligé d'avoir les mêmes lieux, des trucs comme ça.
Oui, bien sûr, tu peux enlever des lieux.
Vraiment,
tu peux...
au niveau de la mise en scène, ça peut être fait très simplement. Ils utilisent beaucoup plus, de plus en plus d'écrans, même dans des comédies musicales sur Broadway ou des choses comme ça, et ça fait le taf. Il n'y a pas besoin que ce soit super détaillé, ça peut être des trucs faits très imagés, pour qu'on s'imagine à Times Square, qu'on s'imagine dans Central Park, enfin, il n'y a pas besoin que ce soit exactement pareil.
Non.
Voilà, tu ramènes un pont qui fait ça sur roulette, hop, des lumières, des petits sous-bois, et c'est parti, quoi.
Ouais, il y a vraiment tous les éléments musicalement aussi. Il y a possibilité, là, il n'y a que 5 chansons.
Avec les morceaux en plus, de toute façon...
Ils ont fait aussi une chanson. Ils ont fait une chanson aussi pour Nancy et pour le prince Édouard. Ce serait vraiment le meilleur moment pour la mettre, et puis bah, recréer une chanson ou faire un final, refaire le final de True Love Kiss tout à la fin avec Derek, avec Robert qui chante avec Gisèle. Enfin, il y a beaucoup d'idées. C'est un film c'est un film en plus qui n'est pas du tout démodé. Enfin, c'est le genre de film vraiment qui passe chaque année à Noël. Il passe à la télé ou à moins tous les deux ans. Et puis, s'ils en font un deux, c'est qu'au final le film a bien marché. Il a quoi ? Il a 15 ans. Il a beaucoup de succès. Il y a aucune raison en fait pour que ce film n'évolue pas plus. Je suis même surpris par exemple qu'il soit pas aussi présent sur les parcs, par exemple.
Franchement, ouais. Et justement, on va en parler maintenant. car nous allons dans Et ailleurs. Et donc, et ailleurs, Max, mais que s'est-il passé ? Alors déjà, il faut parler du futur, car le 24 novembre prochain sortira...
Je crois que c'est ça, c'est le 24.
Il était une fois deux sur Disney+. Ouais.
Donc, ça, 24 novembre prochain pour les deux ce soir, 24 novembre qui était il y a une semaine pour les gens qui écouteront le podcast au mois de décembre.
Et c'est pour ça qu'on sort ce podcast maintenant, mais c'est magnifique, quoi. Qu'est-ce qu'on est intelligent, tout dans le marketing.
Vu ça, on a quand même deux mois d'avance. Mais... Donc oui, le deuxième film qui sort où Gisèle prend conscience que la vie, la vraie vie n'est pas toujours facile. Et d'après ce que j'ai compris, elle devient méchante. Ou alors elle est habitée. La petite fille qui joue dans le premier film n'est pas a grandi, mais n'est pas réutilisée dans le prochain film. Donc c'est une nouvelle actrice qui fera Morgane. On retrouve toujours Patrick Dempsey, on retrouvera toujours aussi Amy Adams, Idina Menzel, je crois. Oui.
Oui.
Bref, on va tout retrouver ce qu'il nous faut, quoi. J'ai hâte de le voir. J'ai hâte de savoir aussi à quel moment. J'ai hâte de savoir aussi comment ils vont garder un petit peu le côté autodérision, parce que c'était ça qui faisait le succès du premier, c'était l'autodérision, qu'il faut absolument qu'ils gardent aussi l'autodérision pour le deuxième, ou sinon t'as vraiment tué un concept dans l'œuf, crever un concept dans l'œuf plutôt, étouffé, non je sais plus, je cherche les bonnes expressions, pardon. Il y a ça, ou sinon, il faudra aussi, s'ils vont utiliser des chansons, Mannequin a dit qu'il avait fait des chansons. Est-ce qu'il... 5 chansons, là, c'est peu 5 chansons par rapport à un film, mais là, c'est déjà beaucoup par rapport au premier. Est-ce qu'ils vont aussi en mettre dans le deuxième ? Je ne sais pas, c'est vraiment la grande surprise.
En tout cas, ce qui est rassurant, c'est que c'est encore une fois Mannequin et Schwartz.
Ouais. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y aura des chansons, il y aura des paroles de qualité. C'est con, c'est qu'il y a eu la D23 il n'y a pas longtemps, ils ont montré une bande-annonce, ils n'ont pas été plus loin. Mais la D23, c'est un autre problème. Au niveau des parcs, pour revenir au parc, dans les shows, il n'y a que dalle. Dans les restaurants, il n'y a que dalle.
Ah, attendez, juste parades... sur la suite, attendez une chose. Patrick Dempsey va chanter.
Oh!
Et ça, ça peut être intéressant.
Oui.
Il y aura 7 chansons et reprises... incluant 2 chansons pour Nancy, qui est jouée par Menzel, donc c'est bien qu'elle chante, vu que c'est quand même Elphaba et Elsa, sachant que voilà, la chanson du premier film avait été coupée. Donc là, il y aura 2 chansons pour Nancy, et en tout, il y aura, a priori, 7 chansons et reprises. Donc on va pouvoir en parler, ça va être très intéressant.
Ouais, si tout se passe bien, oui, on pourra en parler.
Oui. Donc dans les parcs,
dans les parcs, il n'y a pas de show, il n'y a pas de restaurant. Il y a eu une pré-parade au moment de la sortie du film. Ils ont sorti Gisèle sur une calèche en Californie. Il y a eu aussi un feu d'artifice à Disneyland Paris qui s'appelait les Feux Enchantés et qui réutilisait la musique de Enchanted. Dans l'ordre, ça s'ouvrait par la piste Andalasia, donc le tout début.
C'est ça.
Puis il y avait l'ouverture, un baiser. Donc l'ouverture de la chanson, un baiser, qu'on retrouve dans la chanson, qui est aussi l'ouverture du film, avec le fameux livre qui s'ouvre. Et puis d'un coup, boum, montage, coupure, montage audio, il y avait la Enchanted Suite, la fameuse suite du générique de fin. Qui utilise donc un baiser, qui utilise comment savoir, qui utilise très brièvement la chanson le leitmotiv des animaux, la version Cyprès, la chanson Cyprès, et puis à la fin Ever Ever After. Et le feu d'artifice se concluait avec la fin de la chanson Un baiser, qui prenait la fin de la chanson Un baiser, qui est une ouverture, en grande pompe, en fanfare, et prenait la fin, qui était une grande cadence plagale pour montrer le moment où en fait Edouard et Gisèle s'aiment au début du film. Et puis pour dire au revoir aux gens, pour faire partir les gens, le bend de fin, et ben pour les feux enchantés, c'était la fameuse piste Girls Gone Shopping qui utilisait les instrumentales de Ever Ever After. Ever Ever After, en parlant de ça, juste, et puis je finis juste avec cette chanson quand j'ai pas pu en parler, elle doit être interdite en France. Devait avoir des problèmes de droit en France parce qu'elle n'est pas disponible sur Spotify ni sur Deezer.
Sérieux?
Ni sur YouTube Music.
Merci d'avoir écouté cet épisode de la Disney's Music Box, en espérant vous avoir donné envie de partir en Andalasia ou alors à Manhattan, c'est vous qui voyez, pour vivre un amour sincère et avoir un prince charmant ou une princesse pour l'hiver. Croyez-moi, on en aura besoin, il va faire froid. Merci Max d'avoir décortiqué les musiques.
Ouais, merci Alex pour la mise en place du live. Et ton résumé, ton contexte en début de live aussi.
J'aime beaucoup faire des résumés, je me marre. Mon but, c'est de te faire rire. La Disney's Music Box est un live et la bête avec Rien que d'y penser, Flan, Secret Disney et Musicland. Max, on peut te retrouver sur Musicland, non?
Bien sûr, musicland.blog et Instagram, Facebook, Twitter aussi.
Et quant à moi, vous pouvez me retrouver sur Secret Disney. Récemment, j'ai beaucoup parlé justement de l'Avengers Campus, où je vous ai montré quelques personnages Marvel cachés dans Avengers Assemble Flight Force. Bien sûr, nous sommes toujours présents sur Twitter, Facebook, Instagram, Discord. Vous pouvez nous soutenir ainsi que les autres contenus sur Patreon et Utip. Et il y a un wiki aussi. Et bien sûr, restez pour la reprise finale. On espère vraiment que ce live vous a plu. À très très vite. Salut, salut.
À bientôt.
Quand on croise un beau matin l'être que l'on attend depuis toujours, pour que deux ne fassent plus qu'un, on prouve son amour. Dès qu'on aime quelqu'un, tout le monde espère un baiser pour un amour sincère et un prince charmant pour nous plaire. Être bien, rire et s'étonner de s'aimer. Je voudrais tellement. Tout de